Pourquoi est-ce qu'on va vous faire écouter cet avocat? Parce que hier, c'était saisissant de l'entendre parler de la manière dont la plainte a été ignorée et il s'en est pris à des gendarmes, à des magistrats paresseux.
Il y a eu des fautes humaines extrêmement graves de la part d'enquêteurs plus que négligents, défaillants, totalement désinvestis, plus que paresseux. Hein, ce sont des personnes au sein de l'administration qui existent, hein, que ce soit des magistrats ou des enquêteurs, qui ne font pas correctement leur travail, qui travaillent 4 fois moins que leurs collègues et qui sont aujourd'hui, clairement dans cette affaire, à l'origine de la mort de Liana. Et je pèse mes mots, ils sont totalement responsables de la mort de cette petite.
Maître Debuisson, hier, dont le coup de colère retenu, mais bien exprimé, résonne encore.
Il est grande gueule, hein, Maître Debuisson, parce qu'il dénonce, dit-il, une réalité de vrais fainéants qui sont à l'origine de ce drame humain. Depuis le début, on nous explique que c'est systémique, qu'il y a un problème de moyens, etc. Sans doute, effectivement. Mais on oublie aussi qu'il y a des responsabilités individuelles et qu'il y a des mauvais partout. Et qu'il y a des gens qui ne foutent rien partout. Visiblement, il y a gens qui foutent rien dans cette gendarmerie de Hoche, et il y a des gens qui ne foutent rien également chez les magistrats. Et c'est ce que dénonce cet avocat, les enquêteurs paresseux. Il dit qu'il y a une hypocrisie, en fait, aujourd'hui. Par exemple, on apprend que le frère, vous savez, le frère de Barella, lui aussi, est impliqué dans une affaire de violence. Vous savez comment ils sont tombés sur lui parce que c'est lui-même qui a été à la gendarmerie pour porter plainte pour diffamation. Et il y a un gendarme qui a tapé son nom dans le fichier et dit, bah tiens, quand même, ça fait des années qu'il fait l'objet d'une plainte, il a jamais été inquiété pour ça.
Chef, même, qu'est-ce qu'on fait?
Mais c'est quand même, c'est donc coup de bol, quoi, en quelque sorte. Il s'est lui-même dénoncé sans le vouloir. L'autre gendarme, qui n'a pas su prendre en compte la plainte de la maman de Rosa, et pourtant quand on connaît aujourd'hui ce que cette petite fille a subi, ce qu'elle a raconté, on parle de viol anal, vaginal, elle a dit que ça lui avait fait très mal, et sa maman a raconté tout ça, le gendarme n'a rien fait tout ça, donc est-ce qu'on est effectivement face à des gens qui sont feignants, incompétents, et qui d'ailleurs doivent sans doute être sanctionnés?
32-16 pour le dire au Gégé Abel.
Évidemment, même s'il faut pas globaliser, mais c'est bien de pouvoir dire qu'il y a des dysfonctionnements. Non, mais justement, mais moi je vais dans ton sens, c'est bien de dire aussi que parmi les magistrats, il y a des incompétents, parce que ça apparaît toujours comme un corps un petit peu d'intouchable, où dès qu'on essaie de les critiquer, on est limite menacé de censure. Non, il y a des bons et des imbéciles partout, donc il y a des bons et des imbéciles parmi les magistrats, parmi les policiers, parmi les gendarmes.
Donc ils ont un pouvoir absolu.
Ouais, c'est clair, mais il faudrait que justement on puisse, comment dire, péter le plafond de verre à ce niveau-là. Faut essayer de réformer les choses, je ne sais pas comment, parce que ils ont un statut d'indépendant aussi. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour que les magistrats soient plus fonctionnés? À ce qui paraît, ils le sont, mais on ne le voit pas.
Nous, on
le voit
pas. Et même des agents publics.
Donc oui, exactement, mais il faut rendre des comptes, et on est quand même face à des faits de pédocriminalité, je le redis toujours, parce que il y a quelque chose qui me gêne un petit peu dans le traitement médiatique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut insister sur les dysfonctionnements judiciaires, mais il faut rappeler que il y a quand même un grave problème de pédocriminalité et de prise en compte de celle-ci. C'est-à-dire que la parole de l'enfant n'est toujours pas prise en compte comme il le faut. La preuve, 94% des dossiers finissent par des classements sans suite, et il n'est pas normal que dans le corps de la magistrature, que dans le corps des forces de l'ordre, on ait des personnes qui négligent la parole de l'enfant quand il y a des témoignages accablants et des dossiers médicaux qui le sont tout autant. Donc moi, je suis pour une sanction très ferme des magistrats, sans les jeter en pâture, et une sanction aussi très ferme des forces de l'ordre qui ont été impliquées dans le dossier.
Antoine Hirsch. La semaine dernière, j'évoquais déjà, comme tu le dis, Abel, les questions de responsabilité. On peut pas dire que c'est collectif, il doit y avoir des responsabilités individuelles. Peut-être qu'il y a des paresseux, mais depuis, j'ai été un petit peu plus loin sur le sujet et je me suis renseigné en détail sur l'enseignement qui est proposé aux jeunes magistrats. L'École nationale de la magistrature. Ça a un peu évolué ces dernières années, mais on trouve encore sur le site internet de l'ENM un article sur un vice-président chargé de l'instruction à Bordeaux qui est intervenu auprès des élèves, des futurs magistrats. L'article s'intitule, et son cours devait s'intituler, « Comment juger une infraction sexuelle que le mis en cause conteste ?» Eh bien, il dit dans son cours et dans cet article qu'il faut à tout prix éviter de se poser la question de la culpabilité avant la fin des investigations afin de ne pas se fermer des portes. clairement, l'enseignement donné aux jeunes magistrats, ça n'est pas de sortir le plus vite possible le danger de la société, ça n'est pas de neutraliser un agresseur potentiel, c'est de prendre le temps de ne se fermer aucune porte durant tout le temps de l'instruction pour prendre le temps nécessaire à la manifestation de la vérité. Eh bien, en réalité, il y a des paresseux, etc., mais il y a surtout un problème fondamental d'enseignement et de mission confiée à la justice. Pour moi, la justice doit servir évidemment à la manifestation de la vérité,
à protéger
mais
la
avant
société.
Tout à protéger la société. Et donc, dès qu'on a connaissance de quelqu'un qui est dangereux pour la société et qui plus est pour des enfants...
Surtout un pédophile qui est en général un récidiviste.
Exactement, on doit tout mettre en œuvre pour le sortir de la société. Et ça, c'est pas du tout ce qui est enseigné aux magistrats. C'est pas du tout dans nos textes.
Donc c'est même idéologique. Alors.
C'est idéologique, exactement. On ne doit pas prendre le temps nécessaire à la manifestation de la vérité. On doit tout de suite éviter qu'un enfant subisse à nouveau les
accusations aussi.
Mais évidemment.
Nos erreurs judiciaires.
Mais je préfère.
Ça peut arriver aussi des fausses accusations.
Je préfère qu'on convoque en garde à vue quelqu'un et qu'il ressorte. Et qu'on indique, monsieur Intel nous a donné tous les éléments qui nous permettent de garantir que c'est pas lui. Désolé, on vous a convoqué, mais on aura vérifié les choses. Jérôme Barella, il a même pas été convoqué.
Oui, mais on
en garde
a dit que la garde à vue, c'était à la fin. C'est-à-dire que la procureure s'est justifiée en disant, vous savez, la garde à vue, c'est à la fin de toute la procédure.
Bah oui.
Alors si la procédure dure des mois, effectivement, le type n'est jamais en garde à vue.
C'est ça l'erreur.
Ouais, mais
c'est
Antoine, il a raison. Et puis, pardon, on peut se poser aussi la question, puisqu'il faut péter le plafond de verre. Vous avez reçu le général Fonbonne sur BFM TV. Il vous a sorti une dinguerie quand même d'un magistrat qui s'est fait gauler avec 1 million de contenus pédopornographiques. Il a juste pris une amende de 1 000 euros. À Dijon, il y a eu l'histoire aussi d'un magistrat qui mettait sa fille de 12 ans sur des sites à disposition de pédocriminels et il est pas allé en prison. Donc, ils sont intouchables. Est-ce qu'il y en a qui se protègent? Maintenant, on peut se poser la question. C'est pas être complotiste. Et le deuxième point, c'est la manière dont la loi, elle est faite. Comment est caractérisé un viol pénalement? Il faut qu'il y ait la contrainte, la menace, la surprise. Et le quatrième point, c'est lequel? Il y a contrainte, menace, surprise.
Et stratagème, quoi. C'est pas stratagème,
bon,
mais
bref,
c'est...
En tout cas, faut qu'il y ait 4 points. Mais le problème, c'est que quand une personne est violée, la loi ne prend pas en compte l'aspect de la dissociation. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui subissent la chose et pendant ce moment-là, leur esprit fait un blackout, en fait. Donc, ce qui fait qu'effectivement, vous avez beaucoup de procédures pour viol qui finissent par un non-lieu parce que la dissociation des victimes pendant l'acte criminel du viol n'est pas prise en compte. Donc, comme ça ne peut pas être prouvé, on va estimer qu'il y a une incohérence dans le rapport de la victime et dans son récit. Donc, il n'y a rien qui va, il faut une vraie révolution. Ben oui.
Là, je vais vous épargner la lecture du rapport gynécologique et médical sur la petite fille de 12 ans. Je vais vous épargner parce qu'on y a eu accès. Et Olivier l'a évoqué. Mais quand ça tombe sous les yeux du gendarme...
Ben oui.
Au bout de après deux plaintes,
on doit réagir.
Tu réagis. Alors je veux bien que
c'est
la
pas une
gendarmerie...
question de moyens. Là, voilà, c'est simplement ça saute aux yeux qu'il faut réagir.
C'est... D'ailleurs, le patron de la gendarmerie nationale a présenté ses excuses. J'ai vu en disant que c'était un drame, un échec pour la gendarmerie.
Et qu'il y aurait sans doute des sanctions.
On va voir. Donc il faut quand même regarder. On parle d'une fille de 12 ans et on parle de rapports médicaux et gynécologiques. Donc là, c'est pas de la paresse, c'est de la lucidité. Je veux bien que le gendarme, il ait des accidents de voiture, il ait sûrement des meurtres, etc. Donc dans ces cas-là, tu priorises. Et quand une femme te rappelle régulièrement et qu'elle montre à chaque fois les certificats médicaux, c'est quoi? C'est plus de la dissociation. Et qu'en plus, elle se fait menacer en disant, voilà, madame, vous arrêtez de téléphoner parce que sinon c'est du harcèlement, Fatima.
La maman de Rosa, là, c'est un cas d'école pour la maman de Rosa. Moi, j'ai entendu cette femme et vraiment, j'étais... touchée, je suis en... j'aime cette femme, la sincérité où, non seulement, elle était là, on lui a dit son désarroi, elle voulait pour sauver d'autres enfants aussi. Et même maintenant, elle dit, je culpabilise, j'aurais dû faire plus, alors qu'on allait presque porter plainte contre elle en disant, c'est elle, mais le monde à l'envers, c'est-à-dire, tout est le monde à l'envers. Vous voulez le monde à l'envers? C'est la maman de Rosa à qui, limite, c'était elle la coupable, alors que merci, c'était la lanceuse d'alerte, donc voilà. La deuxième, Andrea Bescon, qui était là, qui a appelé au rassemblement pacifique. On interdit le rassemblement. Qui se retrouve en garde à vue? Andrea Bescon. Donc les pédocriminels ne sont pas en garde à vue. Andrea Bescon, qui lutte contre la pédocriminalité, qui n'en peut plus, qui dit ça suffit, et on est entièrement avec elle. Pourquoi elle n'en peut plus, Andrea Bescon? parce que l'affaire Liana n'est pas la première. Elle a l'inventaire sur Instagram, elle a comme ça sur fond noir, parole en blanc, de tout. Toutes, non, même pas toutes, parce qu'elle peut pas quand elle peut et que sa santé mentale le permet aussi, parce que l'inventaire est terrible. Elle recense comme ça les cas de pédocriminalité, de viol. C'est presque toutes les semaines, on en a. Donc là, moi, je veux bien, là, on est en train de dire un paresseux. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas un problème que d'individus. Vous voyez bien qu'on n'a pas une histoire Liana. On pourrait changer les prénoms. Il y a quand même ce problème systémique. Donc moi, ce que j'aimerais pas, c'est qu'on nous dise « circuler, il n'y a rien à voir ». Il y avait un problème, il est paresseux, on met un adjectif sur un individu et on se dit on règle rien. On veut plus de rafistolage, on veut un système impitoyable, radical, on veut le tsunami, moi je vous le dis, un tsunami juste, c'est-à-dire c'est quoi la justice ? Une justice qui fonctionne et qui protège effectivement les enfants.
Est-ce qu'on peut poser une autre question ? Est-ce que si cette femme n'avait pas été d'origine roumaine avec un accent à couper au couteau, est-ce que sa plainte n'aurait pas été mieux prise en compte?
Mais on peut se poser toutes les questions, cher Alain, aujourd'hui.
Ben oui,
on peut se poser toutes les questions. Il y a un véritable problème. Bah oui, bah pourquoi pas? Bah oui, en plus, tu sais, avec son accent et tout, elle arrive peut-être à un mauvais moment
sans
dans
avocat,
la journée. Bah oui,
ça,
elle dérange. Donc voilà, cette personne d'origine immigrée ou immigrée, on ne sait pas. On peut se poser toutes les questions maintenant.
On peut se poser les questions, mais surtout, là, il faut de l'action. Parce que ce qui va se passer, les gens étaient tristes. Les gens étaient sidérés. Maintenant, moi, ce que j'entends, les gens sont plus tristes, ne sont pas sidérés. Les gens sont en colère, notamment les femmes. Vous aviez beaucoup de femmes. Donc, on sous-estime les femmes. On a l'impression que c'est des petits chatons, là, qui miaulent et qui ne vont pas rugir. Je suis désolée, quand on touche les enfants, le chaton devient le lion.
Après,
les gens vont se faire justice eux-mêmes. Et quand les gens vont se faire justice eux-mêmes face à l'injustice, les politiques vont être étonnés en disant, oh là là, dis donc, ce père de famille a tué l'agresseur de sa fille. C'est horrible. La violence va arriver. Parce que la violence, quand on n'écoute pas les gens qui hurlent, quand on n'écoute pas, regardez cette mère-là, elle hurlait, elle a dit ma fille a été violée, cet homme est dangereux, il va faire d'autres victimes. L'homme fait une autre victime, et là on vient lui dire, ah désolé madame, on aurait dû vous écouter. Mais il faut arrêter de dire aux gens, on aurait dû vous écouter, on en a assez de prévenir.
En fait, c'est une hypocrisie,
non, mais vous rendez
c'est une ambiance très hypocrite.
Moi je veux bien, on va rester calme, on va redire la même chose, mais moi j'en ai marre de redire la même chose. Les gens vont se faire justice eux-mêmes, et les politiques vont venir pleurer, mais les gens vont se faire justice eux-mêmes, parce que la justice est défaillante, parce qu'on ne protège pas les enfants. Les enfants, c'est le bien le plus précieux, je suis désolée, c'est le trésor. On n'a pas de coffre fort pour mettre nos enfants dedans, et bien entendu on va pas les mettre dedans, mais justement on veut qu'ils soient protégés. Vous voyez, c'est comme
on a Manu, notre ami chauffeur poids lourd de Corse, qui nous appelle. Bonjour Manu.
Salut et bonne journée à tous. Et un bel abraço, je t'embrasse Abel. Je viens de te découvrir petit à petit, je suis très content de te rencontrer.
Merci Manu.
Manu, il a eu un bon coup de gueule, l'avocat, là, ou pas?
Mais bien sûr qu'il a eu un bon coup de gueule, il a dit la vérité. Et on a un gros souci, et je suis très embêté. Je suis très très embêté avec cette affaire. Vous savez, vous avez signé un bouquin pour votre bouquin pour moi avec ma fille Aix. Vous l'avez vu, ma fille.
Oui.
J'ai deux filles comme ça, et je suis comme tous les Français aujourd'hui. Je suis c'est poignant. Ils sont en train de nous crever le cœur là, tous ces gens avec ces saloperies. Et on est très inquiet pour nos enfants, parce que c'est le sacré, c'est la prunelle de nos yeux. Et moi, ce qui me dégoûte le plus, parce que il y a beaucoup de gens qui ont très bien parlé, Laura m'a mis des poils au forum, je veux dire, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le discours qu'il y a à côté. Le discours et la posture et le fonctionnement de notre pays aujourd'hui, avec des gens qui se jugent aptes à continuer à rester à leur poste, avec toutes les défaillances qui ont été engendrées par leur incompétence. Par leur manque d'attention, d'écoute. Ils ont été prévenus. Moi, je suis désolé, moi, Monsieur Darmanin, la prévenu, il a été prévenu par des juges, il a été
82 recommandations de la Civis jetées à la poubelle.
C'est plus possible. Là, ce qu'il est en train de nous expliquer, quand je le vois avec son air, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il est touché, ce monsieur, je veux bien le croire, mais il est plus à sa place. Il peut pas rester en place. Comment? Je trouve pas les mots parce que c'est tellement bouleversant. Il est en train de nous expliquer que c'est normal qu'il reste. Il est en train de nous appliquer ce fameux système comme le savent faire tous nos hommes politiques. On va rester quand même. Et on est en train d'effacer cette affaire petit à petit, c'est avec ça. Une tête déconstruite à l'Assemblée nationale, avec de la compassion, avec de la peine. Mais il va rester en place, parce que lui, il est convaincu qu'il ne faut pas qu'il parte. Mais on s'en fout de son sentiment à lui. Aujourd'hui, c'est plus lui qu'il faut...
Oui, mais est-ce que son départ, Manu... Est-ce que son départ...
Lui, au lieu d'être tourné vers les autres,
mais Manu, une question, Manu. Est-ce que son départ changerait quoi que ce soit au problème?
Mais si on dit ça... Voilà, c'est Olivier, pardon.
Ouais, ouais.
Si on dit ça, on change rien. Si on dit ça, on change rien. On abandonne nos enfants. Mais... Et je le dis encore là, je vous le dis au micro.
Oui, mais Manu...
Tout ce temps qu'on est, avec nos actions au quotidien de tous les jours, si on passe à autre chose...
Mais on va passer à autre chose, Manu. Je vous donne un exemple. Vous savez pourquoi on va passer à autre chose? Vous savez pourquoi on va passer à autre chose? Parce que si, je vais t'expliquer, politiquement en tout cas. Là, Sébastien Lecornu a annoncé des mesures. On veut faire voter la loi intégrale qui était sur, l'appui des dossiers. On se dit, tiens, on va la faire voter. Comme ça, on va dire aux gens, on agit. Et puis on apprend quand même que les sénateurs, eux, ils seront en vacances à la mi-juillet parce que il y a les sénatoriales en septembre. Donc la loi ne pourra pas passer parce qu'il faut qu'elle aille à l'Assemblée, au Sénat. Donc on sait très bien. Puis après, il y aura les vacances parlementaires. Donc on sait très bien qu'en ce moment, il y a de l'agitation, il y a des effets d'annonce. On parie sur le fait qu'on va passer à autre chose. Il y a la Coupe du Monde qui démarre dans deux jours. On va, après, ça sera l'été. Alors, et c'est Manu,
ce sera la campagne présidentielle.
Mais c'est très cynique. Alors, mais le pari, il est là.
Bah justement, est-ce que vous, Manu, je te remercie d'avoir été avec nous. Je te dis à bientôt, Manu, parce que la discussion.
Il y avait quelque chose de très important. Vas-y. J'ai quelque chose de très important parce que j'ai été vice-président. J'ai été président d'un club de gym et j'ai témoigné. D'accord, j'ai témoigné pour quelque chose. Il y a des écrits, il y a des photos. Et j'ai reçu le jour de mon anniversaire lundi un courrier me disant que la personne, eh ben, tout allait bien. Elle allait pouvoir reprendre ses activités.
Donc il y a des affaires.
On en est. On a les témoignages, on a tout. Et je risque gros aujourd'hui. Peut-être que cette personne va dire que je la harcèle. Mais si j'abandonne toutes ces gosses. Je pense à une petite qui est partie sur le continent dans des états catastrophiques. Cette petite, je l'ai toujours au téléphone régulièrement. Ses parents aussi. Elle a failli crever, cette gamine. Et aujourd'hui, on en est là. On en est là comme des couillons à accepter. Parce qu'on se dit, non, je veux pas mouiller, je veux pas prendre de risques. Eh bien, qu'on me foute au tribunal, c'est pas grave, j'en ai rien à foutre.
Mais c'est ça.
Mais Manu, justement, c'est là où il faut pas confondre avec les effets de manche et les effets d'esbrouf. Là, il y a ta colère. Et puis, il y a ce que disent les politiques. Maintenant, ils veulent voir traiter d'ici mi-juillet 70 000 dossiers. Attends, ils veulent aussi comme mesure que dorénavant, un crime qui est dénoncé soit traité dans les 3 mois. Ils veulent aussi qu'il y ait la perpétuité réelle pour ceux qui sont reconnus coupables de crimes. Alors, qu'on est dans l'esbrouf? Est-ce qu'on n'est pas dupe? Est-ce que c'est la colère qui domine aujourd'hui? À tout de suite au 32-16, il est 9h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, vous prenez la parole, comme Manu, il y a quelques minutes, notre ami chauffeur poids lourd, là, qui est du côté de la Corse, qui était très en colère face à ce qui se passe maintenant, les conséquences politiques du drame, du meurtre de Liana, avec le Conseil supérieur de la magistrature aussi, hein, qui trouve scandaleux que l'on jette l'opprobre aujourd'hui sur toute une corporation. Voilà, c'est ce que dit le CSM.
La corpo contre-attaque. On l'avait dit ici. Il y a pas plus corporatiste que la magistrature. Et elle est attaquée. Dès qu'elle est attaquée, il y a un esprit de corps. Donc là, maintenant, tout le monde dit à peu près la même chose. Le problème, c'est simplement les moyens. Il y a aucune remise en cause et c'est quand même bien dommage.
Fatima.
Juste pour revenir un peu sur ce qu'a dit Manu juste avant, on parlait des politiques et notamment de Monsieur Darmanin. Et tu disais oui, mais changer les politiques. Ce qui est en jeu, c'est aussi leur crédibilité. Moi, avoir des politiques qui semblent découvrir les histoires, alors que les associations en parlent depuis des années, alors qu'il y a eu des documentaires. Rien que récemment, 2021, Karine Dufour, qui ne dit mot, ne consent pas, et qui parlait justement de l'accueil des enfants dans ces cas. Pareil, Mediapart nous apprend qu'il y avait un rapport en 2022, rapport détaillé, que Monsieur Darmanin a vu. Et là, ils font... Oh, ah, je ne savais pas. Alors là, vraiment, vous me l'apprenez. Oui. Je vais agir. C'est insupportable.
Mais le paradoxe,
c'est
que ça tombe.
C'est insupportable. Oui. Insupportable, ça veut dire on ne le supporte pas. Quand on dit ça suffit, il faut vraiment. Non, mais parce qu'on dirait que on va. Regardez comment ça se passe en France actuellement. On arrive, il y a un fait divers, tout le monde vient, nous on parle avec nos tripes, on va dire ça suffit. Les politiques font semblant de nous avoir entendus. Oui. Ils font, voilà, poudre de perlimpinpin, on fait semblant d'agir, on attend, soit il y a le foot, soit il y a un autre fait divers, et un autre fait divers, on chasse un autre. Et notre attention est ailleurs. Oui, du pain, des jeux, anesthésie du peuple, et puis ça fait des années que ça dure, et les enfants meurent. D'accord. On en a assez.
Oui, mais tout le monde en a assez, mais reconnaît.
On en a assez, et on va être comme un moustique. On va être les moustiques du gouvernement.
Ça veut dire,
on va leur prendre la tête. Chaque jour, on va leur prendre la tête. Chaque jour, tu comprends?
Mais reconnaissez que le paradoxe, c'est que ça tombe peut-être sur le ministre qui a le mieux incarné, je trouve, moi, le régalien, sous Macron.
Ah bah, les chiffres disent le contraire.
Dieu sait qu'on a eu quand même des ministres aussi bien à l'intérieur qu'à la justice qui n'incarnaient pas, on peut pas le dire, l'autorité ni la fermeté. Ce que demandent les Français, parce que dans tous les sondages, les Français disent que la justice est trop laxiste, qu'il faut plus de sanctions, plus de fermeté, plus de rapidité. Bon, Darmanin, il est arrivé en 2024, garde des Sceaux, il était à l'intérieur. Lui au moins, il habite un peu le rôle. Alors peut-être que c'est beaucoup de com, c'est beaucoup d'effets d'annonce.
De la com.
Oui, mais il y a quand même une volonté d'agir. Alors, je sais pas si...
Non, mais c'est pas un casting. Olivier, c'est pas un casting.
Bah, si, ça aide. Moi, je pense quand même, si, c'est un casting.
Non, mais moi, tu
quand on a un procureur qui est nul,
Quasimodo qui fait le job, moi, je prends Quasimodo.
Pardon, Fatima, on est obligé de rappeler les chiffres parce que moi, ce qui me flingue, c'est que on ne se rend pas compte à quel point c'est un fléau en France. On a parlé à plusieurs reprises du fait qu'il y a un enfant qui subit des violences sexuelles toutes les 3 minutes. C'est-à-dire que l'émission des GG.
C'est la faute de Darmanin.
J'ai pas dit ça, mais tu vas voir où je veux en venir. L'émission des GG dure 3 heures. C'est-à-dire que pendant les 3 heures, il y a 60 enfants qui potentiellement vont être violés. C'est ça la réalité. En France, il y a un adulte sur 7 qui a des pulsions sexuelles envers des enfants. Un adulte sur 7.
S'interroger sur ces adultes.
Mais pourquoi on en parle? Non, pas pourquoi. Pourquoi les politiques n'en parlent pas? Ça doit être le sujet de tous les jours. Moi, je veux bien qu'on parle
parce
de l'immigration.
Que les enfants, ça vote pas.
On
parce
est
que
quand
les
même
enfants,
le...
ça ne manifeste
on
pas.
On est le 4e pays au monde le plus avec le plus comment dire qui diffuse le plus de contenu pédopornographique. Le 3e pays le plus consommateur au monde. Ça n'alerte pas. Donc on attend qu'il y ait un enfant qui meurt. Mais des lianas, il y en a des milliers.
Simplement, c'est un peu trop facile. D'ailleurs, de faire uniquement le procès de Darmanin, parce que pardon, je vois la gauche qui se réveille là, qui manifestait d'ailleurs. Bon, mais pardon, je l'ai pas vu hurler lorsque on découvrait le scandale du périscolaire parisien.
Ah ben, mais moi j'ai hurlé tout le temps.
Non, mais quand on m'explique, oui, tu comprends, c'est Marine Tondelier qui dit ça. Oui, c'est parce qu'il y a que des hommes qui gouvernent. Pardon, mais la maire de Paris c'était une femme et le périscolaire parisien c'était sa responsabilité. Donc ça aussi, je veux dire, c'est des réponses toutes faites qu'on avance depuis quelques jours.
La
vraie question, c'est de savoir pourquoi il y a autant d'hommes, effectivement,
pédophiles en France. Voilà, c'est ça la question.
Surtout, regardez dans le rassemblement, il y avait énormément de femmes qui étaient rassemblées pour dire plus jamais ça.
Enfin, les collectifs de militantes, elles choisissent leur cause.
Il n'y avait pas que des militantes. Il y avait madame tout le monde.
Il y avait beaucoup d'hommes, on était pas mal d'hommes aussi.
Il y avait beaucoup de femmes qui venaient aussi. Et même des femmes qui manifestaient pour la première fois. Parce que c'est une cause.
Fatima, Sébastien veut témoigner.
Il
n'y
a pas besoin
GG.
D'être droite ou de gauche pour être contre
bonjour
la pédocriminalité, s'il vous plaît.
Bonjour Sébastien. Parce que le drame de l'IANA vous touche particulièrement, Sébastien.
Ouais, c'est assez difficile d'en parler. En fait, je suis quelqu'un qui n'est pas émotif et dès que ce sujet-là arrive, j'ai les larmes qui me montent parce qu'il y a 2 ans, en fait, ma fille a été abusée par un couple, ce qu'on pouvait appeler d'amis. Oh. Et donc... Donc en fait c'est difficile parce que nous aujourd'hui on se heurte à plein de choses.
Vous avez porté
déjà,
plainte.
On a porté plainte. Donc on a porté plainte. Donc pour rappel et on s'en rappellera toute notre vie. Hein. Avec ma femme on s'est rencontrés un 5 octobre et ce 5 octobre là c'était un samedi soir, c'était un vendredi soir pardon et ce vendredi soir là en fait on fêtait donc nos 14 ans ensemble. Et on travaillait très très tôt le lendemain matin, donc le samedi matin. Et donc ce couple d'amis qui habitait à 150 mètres hein, à l'époque de chez nous, on lui demande si voilà on peut leur laisser nos enfants. C'était la deuxième fois qu'on les laissait pour passer la soirée et dormir chez eux. Ils ont toujours été demandeurs en fait de les garder parce qu'ils, d'après ce qu'ils nous disaient, ils adoraient les enfants, ils essayaient d'en avoir, etc. Et en gros, pour essayer de faire assez rapide, on les laisse. Donc, on fait notre soirée. Le matin, on va tous les deux travailler très tôt. Et je vais les récupérer vers 14h. Donc, après, ma femme rentre aussi dans l'après-midi. On décide de se reposer tous les deux dans la chambre parce que forcément, on a commencé tôt, donc on se repose. Mmh. Et là, notre fille arrive dans la chambre. Donc, pour rappel, hein, elle a 5 ans à ce moment-là. Et en fait, elle vient nous voir, elle dit « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire, mais il ne faut pas me gronder. » Et on lui demande ce qui s'est passé. Je suis désolé, hein, ça remonte. Hein. Et donc, on lui demande ce qui s'est passé. Et là, elle nous décrit, en fait, des attouchements. Elle nous dit qu'on lui demande qui a fait ça. Elle nous dit « Oui, c'était dans le noir. » Donc, mais il y en avait un, il avait la main froide, la main chaude. Donc, je savais très bien qui c'était. Elle avait les ongles, donc en fait c'est les deux. Hein. D'après son récit, c'est les deux hein, qui l'ont touché. Donc voilà, donc elle nous raconte son histoire avec des détails qu'un enfant de 5 ans ne pourrait pas imaginer en fait.
Bien sûr.
Mais vraiment jamais imaginer.
Où en est la plainte des...
Et la plainte, ben en fait ça c'est la première sentence, c'est que donc nous le samedi soir on appelle des numéros spéciaux parce que. On ne sait pas quoi faire. En fait, on a tellement le cerveau dans tous les sens.
Bien sûr.
On appelle des associations pour savoir ce qu'il faut faire, vers qui il faut se retourner, etc. Donc ils nous disent demain matin, vous allez porter plainte. Ça, c'est une obligation. Donc on va au commissariat le lendemain matin. On nous dit de revenir à 14h parce que en fait, c'est que de l'astreinte qu'il y a ce jour-là et donc personne ne peut nous entendre le matin.
Pourquoi ? Ça c'est. Alors voilà pourquoi. C'était quel jour ?
C'était un dimanche.
Donc, dimanche. Ouais.
C'était un dimanche, donc que de l'astreinte, donc personne, pas d'officier, en fait, officier, je ne sais plus comment.
Et la plainte, elle est instruite là aujourd'hui ? Elle est passée devant un magistrat, devant un juge ?
La plainte, elle est passée devant un magistrat et elle a été classée sans suite pour manque de preuves factuelles.
Parce que
ma fille, la veille, donc après avoir deux jours auparavant donc été attouchée, le lendemain, on l'emmène à l'hôpital pour se faire ausculter par un adulte, donc qu'elle ne connaît pas, hein, donc forcément, il lui fait les examens médicaux qui sont horribles hein, pour un enfant de 16 ans.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, par la suite, rien n'a été trouvé sur cette analyse-là. Les téléphones ont. Alors en fait, ils ont été entendus sur une journée et ils ont été relâchés. Et derrière, les téléphones ont été confisqués, ils n'ont rien trouvé. Donc comme ils n'ont rien trouvé au niveau des analyses médicales et ni des téléphones, ça a été classé sans suite.
Et donc aujourd'hui, vous vous sentez complètement abandonné. Je comprends votre témoignage, votre désarroi, Sébastien.
Et malheureusement, semble banal en France.
Oui, d'où aussi la volonté aujourd'hui du ministre de dire qu'il faut revoir toutes ces plaintes qui sont là, qui sont en souffrance. Mais la vôtre, elle a été classée sans suite. Et je rappelle d'ailleurs que les signalements de Jérôme Barella, beaucoup ont été classés sans suite. Pas suffisamment caractérisés.
75% des crimes concernant les enfants sont classés sans suite.
Merci d'avoir été avec nous, Sébastien. Merci et tout ce qu'on peut faire, Sébastien, c'est vous soutenir et peut-être vous mettre en relation avec des gens qui connaissent, qui pourront vous aider, qui pourront continuer de vous épauler.